Nous allons nous arrêter sur ce qui traverse le monde actuellement. Nous voyons un monde magnifique, non pas forcément dans ce qu'il vit, mais dans ce que Dieu agit, dans ce que Dieu est maître de la situation, même si on se dit, mais il va où ce monde? C'est complètement fou, on vit dans un monde de fous. Et c'est pourquoi nous avons besoin, nous, de revenir à l'essentiel. Par la foi, nous misons sur l'avenir. Qui sait qui miserait aujourd'hui sur l'avenir? Nous voyons que l'économie a peur parce que on se retrouve dans un temps comme dans les années 70. Vous vous souvenez probablement de ce livre écrit par un Français, « Ces malades qui nous gouvernent ». Que dirions-nous aujourd'hui? Ce ne sont plus forcément des malades dans le sens physique, mais dans le sens spirituel, voire psychique. Une maladie de l'orgueil, un orgueil démesuré, maladie du pouvoir, recherche du pouvoir à tout prix, à n'importe quelle condition. On est dans un monde magnifique, parce que dans ce monde en folie, on a la possibilité de tourner nos regards par la foi sur quelqu'un qui dépasse de loin ceux qui se prennent aujourd'hui pour des dieux. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, c'était Émile Bellotti qui prêchait à la Vereinshaus de Delémont. C'était des messages qui me terrorisaient parce qu'il parlait du retour du Seigneur et c'était quelque chose qui me faisait peur à l'époque. Aujourd'hui, je me réjouis, mais à l'époque, j'avais peur. Mais je me souviens qu'il disait, il parlait de Lénine, de ces grands chefs d'État de l'époque, ce ne sont même pas des nains par rapport à Jésus. Non, non, parce que des nains, c'est encore trop grand. Hein. Ils sont des poussières, nous sommes tous dans cette même nature. Et certains pensent qu'ils sont éternels et qu'ils vont pouvoir faire des choses qui laisseront des traces dans le monde. Oui, mais quelles traces? Quelles conséquences? Mais pour nous, il est important de revenir à la parole de Dieu et nous rappeler que le Seigneur nous invite à nous rappeler, à nous souvenir. Je cite Deutéronome 4, 10. Souviens-toi. Ça, c'est Moïse qui le rappelle dans ce livre du Deutéronome. « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Souvenons-nous que nous avons une mission géniale. C'est d'être des témoins, c'est de partager cette foi que Dieu nous a accordée, c'est de craindre l'Éternel, tout d'abord nous-mêmes marcher dans les voies du Seigneur, mais ensuite l'enseigner à nos enfants, l'enseigner aux enfants qui nous entourent, l'enseigner à ceux qui sont nos frères et sœurs, à ceux qui sont peut-être nos voisins, nos cousins, nos neveux, nos nièces, ceux à qui nous avons la possibilité de l'enseigner. Mais encore dans ce livre du Deutéronome, il est écrit dans Deutéronome 8, 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » On peut dire le désert, c'est mort, oui, mais il y a de la vie dans le désert et surtout dans le désert, nous pouvons être rejoints, visités par le Seigneur pour nous restaurer, pour nous saisir. Et là, ces 40 années dans le désert, c'était afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Le désert, c'est parfois une épreuve que Dieu permet pour que nous puissions nous souvenir qu'il est le Dieu fidèle. Ce souvenir des grâces de Dieu nous conduit à la louange, à l'adoration. Et tout à l'heure, en entrant, eh bien, on échangeait quelques mots à ce sujet. Combien nous avons de sujets de louange? Combien nous pouvons remercier Dieu? Nous sommes privilégiés, je dirais à tout point de vue, Si déjà, si on compare avec ce que vivent d'autres personnes sur cette planète, nous sommes immensément privilégiés de vivre dans un pays où coule le lait et le miel et le fromage et le pain et tout ce qu'on veut avec. On a toutes ces bénédictions matérielles. Mais ensuite, la liberté. Une liberté, c'est vrai, qui se restreint et on doit veiller. Mais cette liberté quand même encore de nous réunir librement, d'exprimer notre foi, se souvenir des bénédictions que Dieu nous a accordées au cours des années. Eh bien, ce matin, je vous invite à lire quelques passages dans la lettre aux Hébreux. Cette lettre aux Hébreux qui est un résumé de l'enseignement biblique, de la grâce que Dieu a fait en Israël, que le Seigneur a donné par Jésus-Christ, que nous avons le privilège de vivre aujourd'hui. Et cette lettre aux Hébreux nous invite souvent à revenir à ces héros de la foi. Et j'aime beaucoup lire la liste des héros de la foi au chapitre 11. Mais en fait, cette lettre aux Hébreux nous propose un chemin personnel conduisant à une foi vivante, enracinée en Christ, et puis une foi qui rayonne de la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée, qui nous a été donnée. Et l'auteur de cette lettre souligne à plusieurs reprises que la foi est une grâce qui s'exprime et se vérifie sur la durée et dans le temps. Par exemple, dans Hébreux 6, 11 et 12, « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, attendent que Dieu fasse toutes choses belles en son temps. » Attente patiente et persévérante, eh bien que ceux qui par leur foi et leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. On aimerait tous être héritiers de Bill Gates, d'autres fortunes célèbres, enfin peut-être, hein, je ne sais pas si c'est votre envie, on aurait d'autres soucis. Hein. Bon, on aime bien avoir un bel héritage, hein. Mais par contre, l'héritage le plus grand, celui qui ne peut pas nous être enlevé, c'est celui qui nous est réservé dans les cieux. Et la foi véritable en Jésus ne peut pas être un feu de paille. Et je sais que je parle à des convaincus. Merci de votre foi, frères et sœurs, qui a traversé toutes sortes d'épreuves. Mais c'est la preuve que votre foi ne se base pas sur une philosophie vide de sens. Mais elle se base sur quelque chose de plus solide. Alors je vous propose de lire ensemble dans Hébreux 11, c'est justement tout, cette liste des héros de la foi, mais on va lire depuis le verset 23 jusqu'au verset 32, et toujours vient cette proclamation par la foi. Et ici au verset 23, par la foi. Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en a eu fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que dirais-je encore? Le temps me manque si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Et le texte continue en parlant aussi de ceux qui n'ont pas vu se réaliser certaines promesses durant leur vie, ceux qui ont souffert à cause de leur foi, ceux qui sont morts à cause de leur foi. Mais toutefois, nous voyons que toutes ces personnes citées dans ce texte des Hébreux et toutes les personnes que nous trouvons mentionnées dans la parole sont pour nous des exemples de la foi. Et ce matin, je vous propose de nous arrêter parce qu'il y a une masse d'enseignements sur ce texte, mais sur trois points. Le premier, c'est Dieu nous surprend par ses actions. Deuxièmement, Dieu nous surprend par ses choix. Troisièmement, Dieu veut encore nous surprendre. Oui, Dieu nous surprend par ses actions. Au verset 30 que nous avons lu, nous lisons que par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en a eu fait le tour pendant 7 jours. Si vous demandez à un chef de notre armée suisse, si la Suisse devait envahir le Liechtenstein, ouais, parce que ce serait plus facile d'envahir le Liechtenstein que d'envahir la France. C'est un petit peu plus petit quand même. Pardon. Je doute quand même que les chefs de notre armée diraient « On va mettre l'armée en colonne, on va mettre la fanfare devant. » Ça me plaît, la fanfare. Et puis, on va faire le tour du Liechtenstein pendant 7 jours. Et le dernier jour, on fera 7 tours. Donc, au total, on va faire 13 tours, puis le Liechtenstein va nous tomber dans l'escarcelle. On n'imaginerait jamais une stratégie militaire pareille. Et même à l'époque où, bien sûr, les stratégies militaires étaient différentes de celles d'aujourd'hui, la façon dont Dieu va agir, va dire à son peuple d'agir, reste une façon totalement inhabituelle. Je peux imaginer ces gens sur les murailles de Jéricho le premier jour. Ils devaient gentiment rigoler de voir ces gens qui s'amusent à se balader là autour de leur ville. Je me demande quel était leur sentiment le 7e jour. Parce que les 6 premiers jours, c'était sans la fanfare. Hein. C'est le 7e jour qui a eu la fanfare et qui a sonné le chauffard, cette corne qui est la voix de Dieu dans ce cas, et qui va manifester la puissance de Dieu. Quels étaient leurs sentiments? Des sentiments de moquerie, probablement. Tout à l'heure, quelqu'un disait que à la radio, nous avons des animateurs radio qui sont des moqueurs terribles de Dieu. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de Jésus, ils se moquent de tout. Bien, c'est le monde. C'est un monde où on se moque parce que on ne veut pas y croire et pourtant on en parle. Il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait rire, autre que se moquer de Dieu. Et non, comme disait notre sœur Jacqueline, les athées sont ceux qui parlent le plus de Dieu, mais c'est pour se moquer de lui. Et là, les gens se moquaient certainement, mais au moment où Dieu a fait son œuvre, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas de la dynamite qui a plastiqué les murailles de Jéricho, c'est la puissance de Dieu qui s'est mise à l'œuvre. Et nous sommes invités à regarder cela en nous rappelant que nous aussi, nous avons parfois des Jéricho dans nos vies, des obstacles dans nos vies, des difficultés, des épreuves qui peuvent être des épreuves qui viennent des gens qui nous entourent, des gens qui sont des gens qui nous veulent du mal, qui veulent nous empêcher d'avancer. Aujourd'hui encore, il peut y avoir des murailles dans nos vies. Parfois, ce sont nous-mêmes qui dressons des murailles. Hein. On est assez doués pour dresser des murs, pour nous empêcher de voir la réalité. Mais ces murailles-là aussi, le Seigneur veut les faire tomber. Et ces murailles de Jéricho, celles qui se dressent peut-être dans vos vies aujourd'hui, Dieu peut les faire tomber. Alors, je vous invite à prier qu'il les fasse tomber, non pas dans la ruine et la destruction, mais qu'il les fasse tomber vers le salut, vers la découverte de qui est Jésus. On pense à tous ceux qui passent par l'épreuve. Je pense à des couples qui sont divisés à cause de la foi. Un des deux marche avec le Seigneur, l'autre pas. J'ai eu cette situation lorsque j'étais à Reconvilier. Une chère sœur s'est donnée à Jésus. C'était un couple de mes anciens clients quand j'étais assureur. Et cette dame s'est donnée à Jésus et son mari, qui était pourtant un gars super sympa, est devenu un diable. On ne pouvait pas citer le nom de Jésus chez eux. Ils devenaient fous furieux. Et un jour que j'ai parlé avec lui, je me demandais s'il allait m'empoigner pour me ficher dehors. Et cet homme s'est converti. Cette muraille est tombée. Non pas pour la destruction, mais il s'est donné à Jésus. Et cela fait des années maintenant qu'il aime le Seigneur et qu'ensemble, il marche avec le Seigneur. Mais il a fallu 10 ans de prière fidèle. Un groupe de prière s'était mis en place et il a fallu 10 ans. Il y a d'autres situations où les murailles ne sont pas encore tombées. Une autre sœur dans ce groupe de prière que mon épouse animait voit encore toujours son mari alcoolique. Son mari qui est un homme extrêmement désagréable, ses murailles peuvent tomber. Ça met du temps. Hein. On aimerait que ça soit plus vite. Moi, j'aimerais pour le soulagement de cette famille que ça soit déjà fait. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Dans quel but? Quel est ton chemin? Mais nous voyons là aussi l'amour de Dieu. Qui ne veut pas briser, qui ne veut pas détruire, qui prend son temps. Et Dieu veut agir avec amour. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut sa conversion. Nous devons toujours nous en souvenir. Nous devons nous en rappeler. Et parfois, Dieu utilise des moyens étonnants, des moyens qui sont peut-être de la maladie, de l'épreuve dans la santé. Je connais quelqu'un qui a passé des épreuves terribles et c'est par ces épreuves terribles qu'il est venu au Seigneur. Autrement, il s'en fichait royalement. Et de ce côté-là, je continue de prier pour un très cher homme que je connais aux Franches-Montagnes. Il habite au Noirmont et c'est un lieu, le Noirmont, un lieu merveilleux, mais où le diable est bien présent, avec toutes sortes d'occultisme qui se manifestent là-haut. Mais son épouse s'est donnée au Seigneur. Et lui encore pas! Et il a plein de problèmes de santé. Et on prie pour lui, pour qu'Antonio puisse venir à Jésus. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut plus la destruction. Un jour viendra la destruction finale. Mais il veut plus la destruction comme ça a été pour Jéricho. Il veut la destruction des armures de Satan, des murailles de Satan pour le salut. Oui, Dieu nous surprend par ses actions et nous devons être attentifs pour le voir à l'œuvre, pour le laisser agir, pour que nous puissions nous aussi nous réjouir et persévérer en croyant que Dieu agit au-delà de ce que nous voyons. Mais deuxièmement, Dieu nous surprend par ses choix. Et dans le texte que nous avons là, je cite le verset 31, « Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. » Est-ce que nous, si nous avions écrit ce texte, on aurait cité cet exemple-là? Est-ce qu'on aurait cité l'exemple d'une prostituée? Est-ce qu'on aurait cité l'exemple de sa foi? Il me semble qu'il y a d'autres exemples de foi qu'on aurait pu citer. Mais c'est bon qu'il soit là. Parce que Dieu nous surprend par ses choix. Il va choisir une femme. Alors, Il faut toujours placer le contexte de sa, sa situation de prostituée dans le contexte de l'époque. On ne peut pas le comparer directement un à un avec la situation aujourd'hui. Mais cette foi de Rahab est mentionnée parce qu'elle est importante. Si vous regardez le texte biblique, après Sarah, femme d'Abraham, elle est la deuxième femme citée dans ce chapitre 11 comme étant une femme de foi. Mais elle est la première qui est mentionnée de l'histoire du peuple d'Israël dans le pays promis. Non pas dans l'ancienne situation, dans le pays promis. Mais comment comprendre que Dieu choisisse une femme comme ça pour souligner sa foi? En plus, elle s'appelle Rahab. Et dans la langue originale, le terme signifie « insolence » ou « violence ». Ce devait être une femme assez de caractère, hein? Peut-être insolente, violente, en tout cas c'est le nom qu'on lui a donné. Et pourtant Dieu va honorer l'attitude et la foi de cette femme. Sa foi n'est pas théorique puisqu'elle le prouve en protégeant courageusement les espions d'Israël. Mais aussi, elle prend un risque énorme parce qu'elle-même risque de payer de sa vie. Mais le texte nous rappelle qu'elle a reçu aussi une révélation de qui est Dieu, ce Dieu des Israélites. Elle dit « Dans la ville, tout le monde tremble, tout le monde a peur parce qu'ils ont entendu ce que vous avez fait à ces armées qui vous ont attaqué dans le désert. Tout le monde est au courant et tout le monde a peur. » Elle a eu une révélation qui est supérieure. Et en fait, nous voyons que le choix de Dieu, il est comme il le veut. D'ailleurs, dans Exode 33, au verset 19, Dieu répondit à Moïse, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. » C'est lorsque Moïse demande à Dieu de se révéler. Mais il a déjà eu plein de révélations, mais là, il demande encore, « Seigneur, mais j'aimerais te voir face à face. » Il dit, « Non, mais je veux pas te montrer juste une partie, je veux te révéler ma bonté tout entière. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. » « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Dieu nous étonne dans ses choix. Pourtant, nous devons reconnaître qu'il ne se trompe pas. Il ne fait pas d'erreur. Est-ce qu'il n'en est pas aussi de même pour nous? Est-ce que je pourrais prétendre mériter la grâce et l'appel de Dieu dans ma vie? Mais non! Quelle horreur! Je n'ai rien à revendiquer, je n'ai rien mérité. Et même si nos vies ne sont pas peut-être aussi déréglées que l'était la vie de Rahab, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu avait bien raison de nous choisir? Que Dieu y perdrait sûrement s'il ne nous avait pas choisis. Et moi, je dirais qu'il aurait peut-être mieux fait d'en choisir d'autres qui avaient plus de valeur que moi. Mais non, Dieu ne se trompe pas. Parce qu'il est le Dieu fidèle, parce qu'il choisit qui il veut, et nous sommes privilégiés, mes amis, d'avoir pu connaître ces choses dès notre jeunesse. Et l'expérience de Rahab et la nôtre peuvent se résumer par la réflexion suivante. Dans la relation avec Dieu, non pas par rapport au monde, hein, mais dans la relation avec Dieu, devant la justice de Dieu, lorsque nous recevons ce que nous avons mérité, c'est l'expression de la justice. N'est-ce pas? Même dans ce monde, hein, si je donne un mauvais coup à quelqu'un, si je vais casser la figure à quelqu'un, c'est normal que je sois puni. C'est juste la justice. Ça, c'est normal. Mais dans la relation avec Dieu, lorsque nous ne recevons pas ce que nous avons mérité, c'est l'expression de la miséricorde. Parce que nous méritions la mort, nous méritions la destruction, nous méritions uniquement d'être séparés de Dieu. Et nous ne recevons pas cela parce que Dieu a un cœur pour nous, pour notre misère. Et c'est pourquoi il nous a sauvés. Et lorsque nous recevons ce que nous n'avons pas mérité, c'est l'expression de la grâce. Nous n'avons pas mérité le salut. Nous n'avons rien fait, nous ne pouvons rien faire pour justifier cela, parce que dès le moment où nous méritons, ce n'est plus une grâce. Mais justement, comme ce n'est pas mérité, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Oui, Dieu nous fait grâce. Et cette grâce, elle nous surprend encore et toujours. Et Dieu veut encore nous surprendre. Et je vous invite encore à lire Hébreux 12, 1 à 3. L'auteur résume en disant, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il règne, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. J'aime le cœur qui parle au travers de ce que l'auteur a écrit. On sent le cœur d'un être qui aime l'Église, qui aime les frères et sœurs, et qui aime Jésus, et qui nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus. Oui, ce début du chapitre 12 est une invitation précieuse pour miser sur l'avenir. Par la foi, nous misons sur l'avenir. Et c'est vrai que lorsque nous écoutons les informations, elles sont empreintes soit de catastrophisme, le changement climatique, les tremblements de terre, les tsunamis, ou bien alors elles sont marquées par un aveuglement sécuritaire trompeur. Une nouvelle taxe va sauver la planète. Une taxe sur les billets d'avion, par exemple. Ça va sauver la planète. Ou alors, nous sommes tentés de hurler avec les loups, ou alors au contraire, de nous boucher les oreilles et de nous laisser décourager. Tout est fichu. Ça sert à rien. On peut rien changer. Nous nous trouvons parfois comme le peuple d'Israël face aux murailles fortifiées d'un avenir sombre. Sombre pour ceux qui nous entourent. Un avenir incertain, un avenir périlleux même. Pourtant, le Seigneur nous fait la promesse d'être toujours le même, d'être là, d'être celui qui ne change pas. Et c'est pourquoi l'auteur nous invite à fixer les regards sur Jésus, non pas sur les circonstances. Cette expression « gardons les yeux fixés sur Jésus » nous rappelle l'expérience de l'apôtre Pierre qui est dans la barque. Ils voient Jésus venir, d'abord ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et lorsqu'il dit « Mais Seigneur, si c'est toi, dis que je puisse marcher jusque vers toi. Viens, viens à venir. » Il sort de la barque, courageux, un peu fou, et il marche sur l'eau. Tant qu'il voit, il garde les yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce qui se passe au moment où il regarde ce qui l'entoure? Il commence à enfoncer. Moi, si on réfléchit un petit peu. Alors, j'ai jamais réussi à marcher sur l'eau. Je sais pas si vous avez réussi à marcher sur l'eau. Mais si, admettons, vous marchez sur une planche, qui est juste recouverte d'eau. Voilà. Alors là, on marche sur la planche. Dès le moment où vous arrivez en bout de la planche, est-ce que vous commencez à vous enfoncer? Mais non. Ça fait plouf d'un coup. On ne commence pas de s'enfoncer. On tombe. Dans l'expérience de Pierre, il a commencé à s'enfoncer. Eh bien, parfois, nous aussi, notre foi commence de s'enfoncer lorsque on regarde les circonstances qui peuvent être, c'est vrai, difficiles, c'est vrai, douloureuses. Et quelqu'un a prié ce matin pour ceux qui passent par la persécution. Terrible, terrible. Je lisais cette semaine l'histoire d'un homme qui allait au bord du fleuve dans un pays d'Afrique, au bord du fleuve pour accueillir les pêcheurs. Il voulait acheter du poisson parce qu'il le rachetait en grossiste le poisson pour le revendre. Et voilà que ce sont des terroristes qui sont arrivés, des terroristes islamistes. Ces terroristes lui ont ordonné de porter les denrées. Et puis tout en portant, ils lui ont dit « Prie, fais des prières ». Il leur dit, mais je ne sais pas vos prières, moi je suis chrétien. Et ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Et ils l'ont brûlé. Et il a été sauvé par des gens qui étaient cachés une fois que les terroristes il a survécu. Quelque chose d'extraordinaire. On s'est dit, mais Seigneur, stop, ça suffit. Je n'ai pas de réponse. Mais ces exemples de foi, de persévérance, parce que cet homme a gardé la foi en Jésus. Et nous sommes invités à prendre ces exemples aussi pour nous encourager. Nous qui vivons dans la liberté, nous avons en Jésus celui qui est à nos côtés à chaque instant. Et nous avons les promesses de Dieu. Pour moi, ce texte d'Hébreux 12, 1 à 3, c'est un programme de relance, non pas économique, mais un programme de relance spirituelle. Nos églises ont besoin de relance spirituelle. Nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. Oui, nous avons une multitude de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et je crois que l'auteur, s'il vivait aujourd'hui, il serait encore plus d'accord pour citer le fait que le péché nous entoure de tous côtés. Et nous invite à courir. Alors, on peut pas forcément courir comme Jean-Paul et Barbara le font avec leur corps, mais on peut courir dans la course spirituelle, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Dans la persévérance, dans la prière, en attendant que Dieu fasse toutes choses belles en son temps, persévérons. Je discutais avec des gens, avec des amis, au sujet de l'Église, et quelqu'un disait, ouais, ma foi, si ça va pas comme ça, ben, nous, on va quitter l'Église. Alors, c'est vrai qu'on a une multitude de choix, hein, on peut aller dans toutes sortes d'églises, on a le choix. Est-ce que c'est bien ce que Dieu veut? Est-ce que nous n'avons pas besoin de retrouver la notion de persévérance et de travailler à la persévérance? Persévérer même si ça va pas toujours comme je veux. Persévérer même si on traverse le désert. Persévérer jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Je pense à des chers amis qui aspiraient à une église plus charismatique. Alors, vous avez deux possibilités, en tout cas deux, peut-être plus encore, hein, en tout cas deux. Soit vous quittez l'église pour aller dans une église charismatique, soit vous persévérez en disant, mais Seigneur, j'aimerais que ce que je vis avec toi, mes frères et sœurs puissent aussi le vivre. Et je prie que tu agisses, et je persévère. Je préfère cette attitude-là, peut simplement de choisir, de dire, bon, ben, ça me plaît plus, je vais ailleurs. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous sommes dans un chemin de vie, dans un chemin de découverte et d'attente et de patience que Dieu fasse toutes choses belles en son temps. Eh bien, que le Seigneur nous aide à garder nos yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui ouvre la foi. C'est lui qui la nourrit. C'est lui qui la renforce. Oui, gardons nos yeux fixés sur Jésus, en nous laissant encourager par tous ces témoignages qui nous entourent. Et soyons nous-mêmes les témoins vis-à-vis des autres. De quelle façon est-ce que je témoigne de ma foi chez mes enfants, chez mes petits-enfants? En critiquant, en disant, oh, ce monde, c'est pas comme ça, oh, puis l'église, c'est pas comme ça, oh, puis ceci, puis cela. Ou en disant, mais regardons à Jésus. Venez découvrir ce que Jésus fait. Et le mieux, c'est de que eux-mêmes puissent dire, waouh, ce que tu as changé dans ta foi. Elle est plus solide, elle est plus vraie, elle est plus mature. Mais pour cela, nous devons fixer nos yeux sur Jésus, le témoin parfait, celui qui a donné sa vie, celui qui a tout accompli pour nous. Et notre foi, elle peut aussi être mise à l'épreuve. Elle peut être mise à l'épreuve comme tu le vis, Jacqueline, dans cette épreuve de santé, comme d'autres le vivent dans d'autres circonstances. Mais cette foi, elle sera reconnue par le Seigneur. Et si vous lisez le début de la première lettre de Pierre, nous voyons que notre foi, elle est plus précieuse que l'or, qui pourtant est périssable et qui est éprouvée par le feu. Eh bien, notre foi aussi est éprouvée parfois par le feu. Oui, par la foi, nous fixons les regards sur Jésus, parce que c'est par lui que nous pouvons miser sur l'avenir. Non pas par nos compétences, non pas par notre fortune, nos situations, par Jésus. Et puis lui, il nous surprend par ses actions. Laissons-nous, ouvrons nos yeux pour voir ce que Dieu veut encore faire. Laissons-le agir. Confions-lui les rênes de ces situations qu'on ne maîtrise pas. Et c'est lui qui agira en son temps. Il veut nous surprendre par ses choix. Peut-être qu'il va nous faire découvrir encore des gens qu'on n'aurait jamais imaginé qui se convertissent. J'ai du mal d'imaginer que M. Poutine se convertisse. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Je rappelle que d'ici quelques semaines, nous aurons la semaine de ressourcement à Adelboden. Et le thème, c'est le livre du prophète Daniel, les 6 premiers chapitres. Et dans ce livre du prophète Daniel, il y a le chapitre qui parle d'un potentat. Poutine est un rigolo en comparaison de Nebuchadnezzar, qui avait droit de vie et de mort. Tu me plais pas qu'on lui coupe la tête, il y avait trois gaillards qui venaient, tac, terminé. Il n'y a personne qui lui demandait des comptes. Bien, ce gaillard-là est devenu comme une bête. Il a mangé l'herbe des champs. Il a perdu sa royauté. Dieu l'a humilié, je dirais, au plus bas. Mais, chose extraordinaire, il le dit lui-même dans son témoignage, « Lorsque j'ai levé les yeux vers celui qui règne, lorsqu'il a reconnu le Dieu des Israélites comme étant le Dieu qui règne sur toute chose, il a retrouvé sa royauté. » Chose impossible! Parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient la royauté à sa place. Hein? Ben oui. Bien, si vous lisez ça, et quand je lis cela, je me dis, ben, il y a encore de l'espoir. Pour M. Poutine, pour Monsieur Trump, pour tous ces gens qui se prennent pour des dieux. Laissons le Seigneur nous surprendre par ses choix. Et laissons encore le Seigneur nous surprendre dans nos vies, dans ce que Dieu veut faire dans nos vies, de ce que Dieu veut faire dans notre entourage, de ce que Dieu veut agir. Qu'il nous accorde une foi solide pour lever nos têtes et proclamer notre confiance en celui qui vient bientôt. Celui qui atteste ces choses, dit l'Apocalypse, dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et ça, nous pouvons continuer de le prier. Nous vivons un temps extraordinaire, mes amis, je le disais au début. Un temps qui nous permet aussi de témoigner. J'ai plusieurs personnes qui me disaient « Oh, c'est une vision apocalyptique. C'est l'apocalypse. » Je me dis « Oui, oui !» Mais je me réjouis de l'apocalypse. Parce que l'apocalypse, alors, il y a toutes les conséquences du péché, du jugement de Dieu. Mais l'apocalypse nous dit que celui qui entend, celui qui frappe à la porte et qui laisse entrer, eh bien, il va souper avec lui, il va manger avec lui, il y aura le salut. C'est la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, si vous avez des fois des difficultés pour trouver un terrain de discussion, tendez l'oreille, les gens qui vont parler de l'Apocalypse, vous pouvez tout de suite dire « oui, 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 je veux l'Apocalypse, mais parce que c'est un sujet qui te permet de rencontrer Jésus. » Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et vous accorde une foi, nous accorde une foi renouvelée. Seigneur, merci. Vraiment, merci du fond du cœur parce que tu nous as permis de découvrir ta parole, parce que tu t'es révélé à nos cœurs. Et c'est vrai que ma foi, elle est bien petite quand je vois tous les témoins que tu cites dans ta parole, mais aussi tous ces témoins qui aujourd'hui souffrent dans leur corps, dans tout ce qu'ils vivent à cause de la foi en Jésus. Je me sens tellement insignifiant. Et pourtant, je peux compter sur toi. Et je peux demander pour mes frères et sœurs que notre foi grandisse en gardant nos yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus. Que ta gloire paraisse, que ton nom cité sur nos vies soit un sujet de victoire, un sujet de grâce, un sujet de persévérance. Nous voulons te servir, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous d'espérance, remplis-nous de ta joie et de ta paix. Au nom de Jésus, amen.
Amen.